Alors aujourd'hui, dans cet enseignement, ce deuxième enseignement du cycle 1 fondamental, nous allons voir les premières paroles du credo selon Nicée-Constantinople. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Nous pouvons d'abord peut-être entendre cette parole dans le livre de la sagesse au chapitre 13. Oui, vain par nature tous les hommes en qui se trouve l'ignorance de Dieu, qui en partant des biens visibles n'ont pas été capables de connaître celui qui est, et qui en considérant les œuvres n'ont pas reconnu l'artisan. Mais c'est le feu ou le vent ou l'air rapide, ou la voûte étoilée ou l'eau impétueuse, ou les luminaires du ciel, principes du monde, qu'ils ont considérés comme des dieux, que si charmés de leur beauté, ils les ont pris pour des dieux, qu'ils sachent combien leur maître est supérieur. Car c'est la source même de la beauté qui les a créés. Et si c'est leur puissance et leur activité qui les ont frappés, qu'ils en déduisent combien plus puissant est celui qui les a formés. Car la grandeur et la beauté des créatures font par analogie contempler leur auteur. Dans le livre de la sagesse, chapitre 13, versets 1 à 5. Alors, dans cet enseignement sur le fait de croire en Dieu comme Père Tout-Puissant, Créateur de l'univers visible et invisible, du ciel et de la terre, il faut d'abord dire une chose. On peut croire en Dieu, c'est bien. On peut croire, on peut savoir aussi que Dieu existe, c'est pas mal non plus. Et il y a une différence entre croire en Dieu et savoir que Dieu existe. La différence est la suivante, c'est que croire en Dieu relève de la foi, savoir que Dieu existe relève de la raison. Et avant de parler de la foi, avant de dire « je crois », il est bon, il est vraiment bon de parler de la raison. De parler de la raison parce que l'homme, nous dit l'Église, est capable de Dieu. L'homme, nous dit l'Église, est capable de Dieu par sa propre capacité intellectuelle. Avant d'avoir la foi, on peut démontrer que Dieu existe sans la foi. C'est très important de le dire. Et de fait, le catéchisme de l'Église catholique nous rappelle que nous pouvons avoir accès à Dieu par des arguments convergents et convaincants. Alors on va voir un peu ce que ça veut dire, des arguments convergents et convaincants. Mais avant de commencer plus amplement sur ce passage, qui est un préambule à la foi, comme le dit l'Église, le fait de réfléchir sur Dieu avec sa raison, c'est un préambule de la foi. Ça prépare à la foi. Mais ce n'est pas la foi. Nous pouvons entendre ce que dit le Concile Vatican II dans la Constitution sur la parole de Dieu, dans le paragraphe 6, sur la révélation divine et la connaissance naturelle de Dieu, c'est-à-dire la connaissance qui est possible par la raison de Dieu. Le Saint Concile reconnaît que Dieu, principe et fin de toute chose, peut être connu avec certitude par la lumière naturelle de la raison humaine, à partir des choses créées. Je répète, le Saint-Cycile reconnaît que Dieu, principe et fin de toute chose, peut être connu avec certitude par la lumière naturelle de la raison humaine, à partir des choses créées. Donc ce que dit le Concile Vatican II, c'est cela, nous pouvons connaître Dieu à partir de notre raison. Et en cela, le Concile Vatican II reprend le Concile Vatican I dans sa constitution Dei Filius, qui elle-même affirmait cela en son temps, que l'homme est capable de connaître Dieu par sa raison. Donc le Concile n'a jamais, et puis l'Église n'a jamais dogmatisé une position philosophique quelconque. Elle n'a jamais pris parti pour dire tel ou tel philosophe pense juste. Mais elle reconnaît, ce n'est pas de l'ordre de l'Église, l'Église s'occupe de la foi, non pas des, je vais aller dire, des voies philosophiques. Elle laisse une pluralité de voies philosophiques possibles, mais elle reconnaît par principe premier que l'homme est capable, par la raison, de connaître Dieu. Et cela, elle s'appuie de fait par l'Écriture. Dans le livre de la Sagesse, que nous venons d'entendre, au chapitre 13, verset 1 et suivant, il nous est dit que l'être humain, par les œuvres de l'artisan, aurait pu retrouver l'artisan. Donc il y a une capacité. De la même manière, si nous lisons Paul dans l'Épître aux Romains, au chapitre 1, verset suivant, verset 19 et suivant, voilà ce que dit Paul. En effet, ce qu'on peut connaître de Dieu est clair pour eux, car Dieu lui-même leur a montré clairement. Depuis la création du monde, les hommes, avec leur intelligence, peuvent voir à travers les œuvres de Dieu ce qui est invisible, sa puissance éternelle et sa divinité. Et Paul rajoute une parole très forte qui montre le problème de l'intelligence quand on se trompe sur cela. Il dit « Ils n'ont pas déçu Dieu, puisqu'ils ont connu Dieu sans lui rendre gloire. L'action de grâce que l'on doit à Dieu, ils se sont laissés aller à des raisonnements qui ne mènent à rien. Et les ténèbres ont rempli leur cœur sans intelligence. Donc le fait de ne penser que Dieu n'existe pas avec sa propre raison, en fait c'est un problème d'intelligence, une erreur de l'intelligence. Ça, c'est l'Écriture qui nous le dit, l'Église nous le dit. Mais il serait bon, j'allais dire, pour un moment de laisser l'Écriture et de parler avec la raison. Nous avons plusieurs voies pour mener à Dieu avec la pure raison dans le grand héritage de l'humanité, de la réflexion. En fait, il y en a plein. Mais de manière beaucoup plus rationalisée, nous avons deux groupements de cheminement intellectuel possible. Ce qu'on appelle le cheminement cosmique, la voie cosmique, et le cheminement de l'homme, la voie anthropologique. C'est-à-dire, d'une part, la réflexion sur le cosmos, la nature, le créé, le vivant. Et d'autre part, la réflexion à partir de l'intériorité de l'être humain, ces questions profondes existentielles. Ces deux chemins peuvent mener l'être humain par sa raison à la certitude que Dieu existe. Et donc souvent, ces deux chemins ont été abîmés par la culture dans laquelle l'être humain se trouve, qui dans notre époque est une culture très sceptique, très agnostique, on ne sait pas trop, ce qui fait qu'on n'utilise pas le travail de l'intelligence qui devrait pouvoir nous amener à Dieu normalement. En fait, la question pour nous chrétiens, c'est de croire en Dieu. Mais le fait de savoir que Dieu existe, normalement, c'est un fondamental. C'est un fondamental. Nous verrons que la question est un petit peu plus complexe, puisqu'en réalité aussi, puisque l'homme a été abîmé par le péché, il a été aussi abîmé dans son intelligence, et parce qu'il est abîmé dans son intelligence, il a des difficultés par lui-même à bien raisonner, pour trouver la vérité sur la question de Dieu par sa raison. Mais c'est possible. Alors, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Alors on va un peu se développer les questions philosophiques avant d'aborder toujours la foi. Nous allons commencer par la voie cosmique, la réflexion sur le cosmos pour nous mener à Dieu. Il peut être très important de faire cette expérience que beaucoup font, et même des athées. Je rencontrais des athées récemment, un jeune agnostique plutôt, qui me confirmait avoir fait cette expérience existentielle qui est fondamentale dans la vie de tout homme pour amener au chemin de Dieu. C'est l'expérience de sa finitude dans l'existence. Le fait d'exister, le fait de prendre conscience qu'on existe, c'est-à-dire de se poser un instant, je ne sais pas, regarder ses mains, écouter sa respiration, son cœur, regarder où on est et se dire « j'existe ». Ça a l'air de rien, mais c'est énorme. Parce que quand on prend conscience de cela, on prend conscience du même coup qu'on aurait pu ne pas exister. Comment ça se fait que j'existe? Tiens, je ne me suis pas donné l'existence à moi-même. Mais j'existe. Tiens, un autre que moi aurait pu exister à ma place en ce moment. Et j'aurais rien pensé. Tiens, c'est pas moi qui ai fait mon existence. J'ai pas le pouvoir de fabriquer mon existence. Si on est étonné de cela, si on prend au sérieux cela, on entre dans le cheminement de la métaphysique, de l'étonnement du fait d'exister, et en fait, ça va nous amener à la question de Dieu. Ce cheminement a été entrepris par des gens qui n'avaient pas la foi chrétienne. On pense par exemple au grand philosophe Aristote en son temps. Donc le fait d'être surpris du fait d'exister nous émerveille et nous donne un vertige. Et nous prenons aussi conscience de notre finitude. C'est bien souvent parce que nous ne nous posons pas un instant, que nous vivons une vie bruyante et rapide, que l'être humain oublie le fait qu'il existe et le fait que les choses existent. Le grand philosophe Heidegger, au siècle dernier, disait « parce que l'homme est technicien, parce qu'il voit les choses et veut les manipuler, en faire ce qu'il veut, il oublie qu'avant que les choses soient des choses où il peut faire des choses avec, ou autre chose avec, elles sont d'abord des choses qui existent. La technique a fait oublier l'oubli de l'être. Or, c'est premier. Il nous faut contempler la création, avant de parler de création, le fait des choses qui existent, et le fait que nous existons et que nous n'aurions pu ne pas exister, comme une donnée première, qui s'impose à nous, et qui n'est pas voulu par nous, qui est là. C'est tout. Et ça, c'est la réalité la plus objective. C'est le fondement de la vérité. Il y a du réel qui existe. C'est vrai. Et donc on voit que dans cette question sur le fait que les choses existent, ça nous interpelle parce que les choses n'ont pas leur force par elles-mêmes d'exister. Rien n'a potentiellement la capacité d'exister par lui-même. Quand nous disons ça, nous disons que la chaise ne peut pas se fabriquer chaise toute seule, à partir de rien, ni un être humain. Rien du tout. Donc comment se fait-il qu'il y a de l'existence, puisqu'aucune chose a la capacité d'exister par elle-même, mais qu'elle existe? Il faut donc bien qu'il y ait quelque chose qui puisse permettre que les choses existent, mais qu'elle-même n'est pas sa source d'existence d'ailleurs, sinon elle aussi n'est qu'un élément dans la chaîne de l'existence. Donc il nous faut une source première de l'existence, qui n'a pas été dans l'existence par quelqu'un d'autre que par elle-même, et qui produit l'existence. Mes amis, nous avons là, en philosophie, la définition de Dieu, ce que plus tard on appellera l'être subsistant, l'essai subsistance, celui qui existe par lui-même. Et quand on peut atteindre ce raisonnement, bien rationnel, par le seul fait de contempler le fait que les choses existent. De la même manière, nous pouvons être surpris parce que les choses qui existent sont bien pensées. C'est marrant, elles sont agencées avec un bon ordre. Si je prenais cette feuille de papier, que je la jetais par terre, a priori elle tombe par terre. Mais si je la prends une deuxième fois, elle ne va pas tomber au plafond. Il y a un ordre dans les manières, dans le cosmos, il y a des lois physiques. Vous voyez, il y a des lois physiques qui organisent le cosmos. Et ces lois physiques, nous pouvons les mesurer. Donc elles sont pensées, puisque nous rentrons en connaissance d'elles-mêmes par notre pensée. Nous voyons qu'il y a de la pensée et nous pensons. Donc le monde est fondé sur la pensée. Là encore, personne ne fait de la pensée à partir de rien. Il faut donc que le monde soit pensé pour qu'il soit fondé sur la pensée. Mais alors qui est le penseur? Voyez, tous ces raisonnements sont profondément rationnels, profondément logiques. Et nous pouvons aller jusqu'à une cause première qui est la source de l'existence ou la source de la pensée. De la même manière, on voit que cette source première est bonne. Il y a une forme de bonté dans la création. Le fruit est bon à manger. Il y a une beauté dans les choses, une harmonie. D'ailleurs, nous pouvons faire des choses qui ne sont pas toujours très belles, je parle esthétiquement, mais vous pouvez quasiment tout le temps voir, ou peut-être même tout le temps, que la création laissée à elle-même est toujours très belle. Un champ, même en jachère, est beau. Il y a une beauté dans les choses. Rien n'est chaotique. Les choses sont belles. Donc, il y a un ordre créateur, une pensée qui fait que les choses sont belles. Et quand nous y réfléchissons, nous voyons que le fait d'exister est une bonne chose. Or, cette chose-là, le fait d'exister, nous ne l'avons pas demandé, nous existons. En fait, nous existons avant même d'avoir pu dire merci ou de demander d'exister. Donc, avant même que nous puissions avoir conscience d'exister, une source d'existence bonne a voulu que nous existions, ou a permis, ou a causé le fait qu'on existe, parce que on ne lui a pas demandé. Donc il y a de la bonté première qui fait que les choses existent. Vous voyez, il y a de la vérité, il y a de l'harmonie, il y a de la pensée, il y a une source d'existence, et il y a de la bonté première. Mes amis, si nous creusons ça un peu plus profondément avec le concept, nous verrions que la source de ça, c'est la définition de Dieu. C'est aussi simple que ça, et pourtant c'est très profond. Les arguments qui sont avancés n'ont pas bougé dans l'histoire des siècles. Ils ont été repris en son temps par Thomas d'Aquin, grand docteur de l'Église, qui a indiqué 5 voies à partir du cosmos par lesquelles on peut prouver que Dieu existe. Thomas a présenté 5 grands raisonnements où il a dit qu'il faut qu'il y ait la nécessité d'affirmer l'existence de quelque chose en quoi tout le monde reconnaît la réalité, Dieu. Une source immobile de mouvement que nous constatons. Elle produit le mouvement, elle produit l'existence et elle-même, elle ne bouge pas. Elle est impassible, cette source. Elle est la source qui agit elle-même. Elle est la source qui, d'elle-même, donne l'existence. Et elle est l'être de manière suprême. Elle est cause de bonté, de perfection, cause d'intelligence. Tout cela, Thomas le donne dans 5 voies, dans sa somme théologique, dans la première partie, la prima pars, question 2. Voilà. Et de manière aussi moderne, nous pouvons regarder à travers la génétique et l'astrophysique que le monde semble ordonné. Beaucoup d'astrophysiciens se reposent aujourd'hui la question de Dieu à travers la découverte. Soit dit en passant, la théorie du Big Bang, on ne le sait jamais, elle a été découverte par un prêtre. C'est bien de le dire. Et si on veut creuser ces questions-là, vous pourrez aller voir à la fois le dessinateur de BD qui est très bon dans son domaine, Brunor, et si vous voulez creuser les questions au niveau philosophique, la philosophie des sciences, réfléchir là-dessus, allez voir le philosophe Claude Trémontant. De la même manière, nous voyons qu'en biologie, en génétique, il y a comme un message créateur, une information première qui se déploie dans le créé et qui augmente même. Tiens, ça nous fait penser, par analogie, à une parole créatrice qui donne vie au réel. Il y a beaucoup de points communs. Donc il faut creuser tout cela et nous avons besoin de nous émerveiller pour redécouvrir qu'en fait Dieu est pensable, est profondément pensable. La voie anthropologique, la voie de l'homme, c'est plus une voie de l'intériorité, les penseurs de cela, c'est plus Platon, saint Augustin, c'est de découvrir qu'en fait nous sommes ordonnés à quelque chose d'absolu. Nous sommes ordonnés à quelque chose qui est plus grand que nous et c'est inscrit dans nos tripes, dans tout notre agir, dans toute notre manière de vivre, entre nous, dans toute notre culture. Ah oui, comment ? D'abord, l'homme est fait pour le sens, à deux niveaux. Il cherche une orientation dans sa vie, et il cherche que les choses ont du sens. S'il prend au sérieux, bien sûr, il peut faire le feignant et oublier cela. Mais s'il prend au sérieux sa vie, il sent bien qu'il a une crise de sens qui touche à la signification de son existence et à l'orientation de son existence en même temps vers la fin de son existence. Donc on est fait pour du sens. Et on voit que cette question du sens, de manière cruciale, on la retrouve dans la question de la mort. L'homme veut dépasser sa finitude et il veut savoir, il se pose la question de pourquoi vivre et pourquoi la mort. Quand nous perdons quelqu'un, nous sommes scandalisés par ça et nous sommes tournés, nous réfléchissons à pourquoi vivre. Alors de deux choses l'une, soit l'expérience de la mort, la réflexion sur la mort est une erreur de fabrication humaine, personne ne doit se la poser, mais l'homme se la pose, il ne devrait pas se la poser. Et parce que les choses sont faites sur du non-sens, et voilà, il n'y a pas de sens à la mort c'est mort. Soit alors, mais il semblerait quand même que tous les êtres humains se la posent cette question. Donc ça n'a pas l'air d'être trop un défaut de fabrication, mais le commun des êtres humains. Soit alors l'homme est fait pour la transcendance, parce qu'effectivement il se pose la question de la mort en permanence et veut y répondre. Donc il est fait pour au-delà de lui-même. S'il était fait que pour lui-même, il ne se poserait pas la question de la mort. Il est fait pour au-delà, puisqu'il se pose la question de la mort, il se pose la question de après sa fin. Vous voyez ? Donc on est fait pour plus. On est fait pour plus. De la même manière, on retrouve ça dans l'agir humain. L'homme veut dépasser sa finitude dans son connaître. Ah oui ? Il veut embraser la connaissance de tous les temps. Il veut savoir avant et s'il pouvait même après. Et s'il pouvait rechercher, il ferait tout. Et on voit que dans la quête de connaissance, on veut dépasser nos limites. Et on loue ceux, l'humanité honore ceux qui ont dépassé, qui ont franchi les limites de la connaissance, toujours plus loin. Donc l'homme veut connaître toujours plus, au-delà même de ce qu'il peut connaître en une seule vie. Nos bibliothèques sont remplies de livres qui dépassent notre seule propre expérience. Donc il y a comme une sorte de quête d'infini de savoir qui dépasse le seul quête qu'on pourrait avoir en une vie. Tiens, c'est marrant. De la même manière, l'homme est bon. L'homme est bon, et dans la bonté, il tend à se donner et à se dépasser lui-même. Si bien que parfois, dans ce dépassement de lui-même, ça peut l'amener jusqu'à coûter sa vie. Il va donner sa vie. Là encore, nous, l'humanité, ne trouve pas ça du tout, j'allais dire, kamikaze, quand c'est bien vécu. Elle honore ces gens qui ont donné leur vie pour les autres. Elle les appelle les héros ou les saints de la nation. Donc il semblerait qu'il y a un modèle d'humanité dans le fait d'aller plus loin que sa vie, d'aller au-delà de sa vie. Et on voit que la bonté, qui est d'aimer l'autre, de se donner, semble aller dans l'être humain plus loin que lui-même. Tiens, c'est marrant, l'agir humain va plus loin que lui-même. Et quand il va plus loin jusqu'au-delà de sa vie, on dit que c'est vraiment une grande humanité. Bah, dis donc. De la même manière, la beauté, l'homme tend vers la perfection. Il cherche une harmonie qui le dépasse. Nous voyons quand l'artiste représente quelque chose, alors la crise du beau actuel pourrait contrefaire ce que je dis, pourrait vraiment détruire ce que je suis en train de dire. Mais non, a priori, la quête du beau, c'est le sublime. Or, quand nous regardons les gens, nous ne les voyons pas sublimes. L'artiste ne se contente pas de représenter les gens. Il les représente de manière idéale. Et nous attendons de lui qu'il les représente de manière idéale. Et quand nous regardons un tableau ou une musique sublime, nous disons tous que cela nous élève. Sous-entendu que là, il y a une source d'humanité qui nous fait grandir. Donc, en gros, une perfection qui nous dépasse, qui n'est pas simplement ce que nous avons ici-bas, semblerait être le cœur de notre humanité. Tiens, là encore, la quête de la beauté va au-delà de l'homme. Donc la quête du savoir, la quête de la bonté, la quête de la beauté et la question de la mort sont des questions de l'au-delà de l'être humain. Donc voyons, l'homme veut l'absolu plus que lui.
traversée. Et dans ces quêtes-là, il voudrait même une altérité, c'est-à-dire que ça soit totalisant, absolument unifié, et que ça parle, que ça devienne vivant, réconfortant. Ah oui, quel exemple on peut prendre? On raconte cette histoire d'un grand artiste qui faisait une sculpture et qui, à la fin de sa très belle sculpture, donc il cherche la perfection au-delà de ce qu'il peut voir, très belle, il la finit et il regarde la sculpture et il dit « parle ». Il voulait que le sublime soit vivant. Il rentre en relation avec lui. Et dans cette quête de vérité, de bonté, on pourrait emmagasiner des savoirs, mais on sent bien que cette fin de connaître n'est pas suffisante pour combler l'être humain. De la même manière, on pourrait emmagasiner des œuvres sublimes et on voudrait qu'elles rentrent en relation avec nous. De la même manière, on pourrait faire des choses bonnes, mais on aimerait une bonté qui ne s'épuise pas dans la mort, qui continue toujours et qui nous élève. L'homme cherche l'altérité infinie de bonté, de beauté, de vérité immortelle. En fait, l'homme cherche Dieu. L'homme cherche Dieu dans son être, dans son agir, dans sa pensée, dans sa culture. En fait, Dieu serait pour lui implicitement sans savoir la source du beau, du vrai, du bien. Donc il y a profondément ce moteur dans l'être humain, comme cette harmonie, cette science, cette pensée, cette existence dans le cosmos. Et ce sont deux voies que nous pouvons utiliser pour prouver l'existence de Dieu. Voilà, je ne recite pas le concile, je ne recite pas l'écriture, mais c'est important de le dire, parce qu'avec cela, on peut commencer à poser les bases en disant « oui, Dieu existe ». Puisque c'est le moteur de l'action, de l'agir humain. Et Dieu existe parce qu'il nous a posés dans l'existence. Donc vous voyez, nous avons à faire ce travail-là pour dialoguer avec nos amis athées, agnostiques, parce que c'est un travail de purification de l'intelligence, d'éveil intellectuel et existentiel, et que souvent nous sommes handicapés de la raison. Et que le pape Jean-Paul II, dans son encyclique Fides et Ratio, rappelait au début que la foi et la raison sont comme deux ailes avec lesquelles l'homme va vers la vérité. Et qu'il ne faut pas atrophier la raison sous prétexte qu'on a la foi, sinon le risque c'est d'être fidéiste, et à la foi du paysan, et qu'il n'aidera pas à rendre compte de notre foi, comme dit Pierre. C'est capital. Parce que des gens ont besoin d'intelligence pour comprendre. Et que Dieu, s'il a créé l'univers, il est fondamentalement la source du beau, du vrai, du bien, et qu'il est l'intelligence par excellence. Je rappelle que quand il crée, il parle. Et le logos, dans le verbe, dans saint Jean, c'est la source de l'intelligence. C'est le discours par excellence. D'où là viennent tous les petits discours, les biologies, les géologies, etc. en logie. Dieu est la source. Donc il nous faut avoir un langage convaincant pour parler de cela à nos contemporains. Et on ne peut pas faire l'économie de cela. Alors nous rentrons maintenant dans la deuxième partie. Croire en Dieu. C'est-à-dire, nous passons au registre de la foi. C'est-à-dire, vous voyez, cette altérité que nous cherchons à travers notre agir, cette quête de beau, de vrai, de bon, cette question de l'au-delà qui tend l'homme au-delà lui-même vers l'absolu, ou cette reconnaissance dans la création d'une source unique qui pense, qui a posé l'existence, qui pose les choses dans la beauté, dans l'harmonie. L'homme veut rentrer à un moment donné en contact avec elle. Et il sent que la raison a une limite. Si la raison peut reconnaître qu'elle va vers ça, ou alors qu'elle vient de ça, comme sa source qui lui a donné l'existence, la raison ne peut pas produire Dieu par elle-même, ne peut pas rentrer en contact avec la source. Il faut que la source se mette à parler, à rencontrer. Et en cela, la foi dépasse la raison. On pourrait dire la foi, elle est suprarationnelle, elle n'est pas irrationnelle, elle est au-delà de la raison, elle est plus. Et Dieu, pour rencontrer, va parler. Et en parlant, il a créé, et en parlant, il rencontre. La parole est d'abord créatrice, elle crée l'univers, et la parole rentre en dialogue pour passer au niveau de la foi, au niveau de la grâce avec les êtres humains. La parole de Dieu va se faire entendre, et l'homme va l'entendre, et ce dialogue va se faire dans la foi, dans l'accueil croyant de la parole créatrice qui peut rentrer en discussion aussi. Et c'est toute l'histoire de la révélation de Dieu. Quand nous disons « je crois en Dieu », nous disons cela, que Dieu, nous pouvons le rencontrer, qu'il peut parler, qu'il est au-delà de notre raison, mais qu'il est aussi rationnel, mais qu'il la dépasse, et qu'il touche notre cœur par un langage qui lui est propre, la parole de Dieu, que nous pouvons accueillir avec foi. Cette foi, je crois, est à la fois un acte personnel et un acte communautaire. Le catéchisme de l'Église catholique au numéro 166 dit « Nul ne peut croire seul comme nul ne peut vivre seul. Nul ne sait donner la foi à lui-même comme nul ne sait donner la vie à lui-même. » Quand je dis « je crois », c'est toujours dans la foi de l'Église. Mon adhésion à Dieu ne peut se faire que parce que j'ai reçu la foi de l'Église et je la professe dans l'Église. C'est un mystère de comprendre ça. En rien, ça n'enlève notre dignité personnelle, notre liberté, mais le contenu dans lequel nous croyons, le credo, la foi, ce qu'on appelle le dépôt de la foi, la transmission reçue par les apôtres de la foi, nous ne le fabriquons pas, il nous est donné. Ce sont des formules dogmatiques qui résument le donné révélé, c'est-à-dire toute la révélation, ce que Dieu a dit de manière synthétique. Et ça, nous ne pouvons pas l'inventer, parce que nous ne pouvons pas inventer la parole de Dieu, ce Dieu parle. Et donc, nous entendons et nous formalisons ça en credo, qui est la contenu synthétique de notre foi. Or, celui-là, ce credo, il est transmis. Il est transmis de génération en génération. Et donc, celui qui lui a adhéré personnellement, il rentre dans la communauté de ceux qui croient à ce credo, la communauté des croyants. Donc, le « je crois », c'est toujours un « nous croyons », un « croyons » ecclésial. Et c'est important d'en avoir conscience, parce que sinon, le relativisme et l'individualisme dans lequel on est risqueraient de nous exclure de cette foi ecclésiale, et c'est une tentation aujourd'hui, mais plus encore, la conséquence de cette exclusion de la foi ecclésiale, de la foi de l'Église, c'est qu'en fait, on perd le vrai visage de Dieu, la connaissance totale de Dieu. Il y a des éléments de Dieu après, quand on ne recueille pas la foi en l'Église, dans le credo, qui sont atrophiés. Qui sont atrophiés. Parce que Dieu parle, il parle à tous, il faut recevoir toutes ses paroles, sinon on atrophie la connaissance de Dieu. Donc voilà pour le « je crois » et « je crois en Dieu ».« Je crois en Dieu », c'est le Dieu unique. Tout l'Ancien Testament, la grande idée de l'Ancien Testament, c'est l'unicité de Dieu. Le fait que Dieu soit unique, dit le catéchisme de l'Église catholique, qu'il soit la source de tout, qu'il n'y en ait pas d'autre. Quand Israël dit « Écoute Israël, le Seigneur est unique », c'est le grand credo d'Israël, c'est de reconnaître que Dieu, il n'y en a pas d'autre. Ce n'est pas la chaise en bois, ce n'est pas la statue, ce n'est pas l'herbe, ce n'est pas le soleil. Il est au-delà, au pouvoir de la création, et il n'y en a qu'un, c'est le Créateur. Notre credo commence par cela, parce que c'est la source de tout. Dieu est unique. Nous avons cette confession de foi, « Écoute Israël, le Seigneur est unique » en Deutéronome, chapitre 6, versets 4 et 5. Et cette confession de foi que Dieu est unique, source de tout, qu'il n'y en a pas d'autre, implique l'homme à le placer en premier. Implique l'homme à placer tout son être en premier, ordonné au Créateur. Et le Christ rappellera ça en Marc 12, versets 29-30. Il rappellera qu'il faut aimer le Dieu unique de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit, de toutes ses forces. C'est premier. Le reste, c'est second. Ça pose les choses. Si on ne pose pas ça en premier, on pose les choses, le reste, dans un mauvais ordre. En fait, si on ne pose pas Dieu en premier, on est idolâtre. Et Israël s'est battu contre l'idolâtrie dans l'Ancien Testament pour placer Dieu comme unique au-delà des idoles. Donc il y a un vrai enjeu pour nous. Cette connaissance de Dieu va se faire progressivement. Va se faire progressivement. Et on va voir que Dieu ne révèle pas tout de suite son nom. Il est d'abord, comme on est dans le livre de l'Exode, chapitre 3, verset 6, le Dieu des pères, des premiers croyants au Dieu unique. Donc on voit, c'est le début de la foi ecclésiale, de la foi transmise par le peuple. On dira, c'est le Dieu qui s'inscrit dans l'histoire des hommes. On ne le dira pas comme ça, on dira, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Exode 3:6. Et ce Dieu est fidèle et compatissant, il se souvient des promesses, et ce Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob est un Dieu qui veut libérer de l'esclavage. Et nous avons cette expérience que va faire Moïse de la révélation du nom de Dieu. C'est très important. Avant de dire « Je crois en Dieu le Père », nous avons intégré le fait que Dieu a un nom. Le nom, pouvons-nous arrêter un instant, signifie l'essence de la chose, ce qu'elle est en soi, l'identité de la personne et le sens de sa vie, et aussi même, j'allais dire, sa fonction, son action. Livrer son nom, c'est se rendre accessible aux autres, c'est livrer quelque chose de soi. Et dans le livre de l'Exode, au chapitre 3, verset 13-15, Moïse dit à Dieu, « Voici que je vais trouver les Israélites, et je leur dis, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Mais s'ils me disent, quel est son nom? Que lui dirai-je? Que leur dirai-je? » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il dit, « Voici ce que tu me diras. Je suis m'a envoyé vers vous. C'est mon nom pour toujours. » L'Église nous dit qu'à travers ce mystère dû à la révélation du nom, Dieu se révèle et ne se révèle pas complètement. Il reste le Dieu caché en Isaïe 45:5, dont le nom est ineffable dans le livre des Juges, chapitre 13, verset 18. « Je suis celui qui suis, je suis » semble une énigme, un mystère, quelque chose qui dépasse l'être humain. Et c'est pour ça qu'il faut aborder le mystère du nom de Dieu avec un sens d'adoration. Et on peut adorer Dieu. Ainsi, Moïse, qui reçoit la révélation du nom de Dieu, enlève ses sandales. Il adore le Dieu unique, comme Isaïe devant la gloire de Dieu, qui dans le livre d'Isaïe, au chapitre 6, verset 5, s'écriera très fortement devant la gloire du Dieu trois fois saint, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. » Voyant la gloire de Dieu très forte. De la même manière, Pierre, en son temps, devant la pêche miraculeuse, dira « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » La sainteté de Dieu qui se manifeste, qui révèle un nom mystérieux, provoque en l'homme une adoration et le sentiment d'être petit, d'être pécheur. Et par respect pour cette sainteté de Dieu qui se révèle, le peuple d'Israël ne prononce jamais le nom de Dieu, qu'on appelle Yahweh, qui sont que des consonnes en hébreu. C'est le tétragramme que vous retrouvez en haut de la coupole, dans le cœur de l'Église, dans le triangle, écrit en hébreu Yahweh, mais aussi que vous retrouvez dans la chapelle d'adoration en haut, en hébreu. Ce nom-là, on ne le prononce pas, parce que prononcer le nom de Dieu, c'est mettre la main sur Dieu. C'est comme dire « téléphone » et je prends téléphone. Or Dieu, son nom est, doit rester un mystère, parce que la créature ne met pas la main sur le Créateur. Donc on ne prononce pas le nom de Dieu dans l'Écriture et on remplace le nom de Dieu par un titre divin, en hébreu « Adonai », en grec « Kurios », c'est-à-dire « Seigneur ». Et ainsi la divinité de Jésus plus tard sera proclamée comme « Jésus est Kurios », « Jésus est Seigneur ». Parce qu'on a un respect pour la divinité de Dieu. On va voir aussi que ce nom de « Je suis » dit beaucoup de choses. Ce nom révèle en même temps la fidélité de Dieu, qui est à la fois un mystère, comme je disais, mais on dira une deuxième chose tout à l'heure par rapport à l'existence, mais tout d'abord on peut dire que c'est la fidélité de Dieu qui s'est manifestée d'abord dans la vie d'Abraham, Isaac et Jacob. Voilà, la fidélité de Dieu va se poser. Dieu est le Dieu fidèle. Il a marqué le passé de l'histoire d'Israël. Je suis le Dieu de tes pères, Exode 3:6. Mais c'est aussi le Dieu qui sera fidèle pour plus tard. Je serai avec toi, Exode 3:12. Je suis celui qui suis, c'est la fidélité de Dieu qui se pose là. Et cette fidélité de Dieu continuera même si ceux qui ont reçu la révélation du nom de Dieu, Israël, ne respectera pas cette fidélité, cette alliance avec l'unique Dieu. Ainsi, quand Israël va retomber dans l'idolâtrie par le veau d'or, Dieu écoutera pourtant l'intercession de Moïse et acceptera de marcher au milieu d'un peuple fidèle, manifestant ainsi son amour. Et Moïse demande de voir la gloire du Seigneur, qui dira le Dieu de gloire et de pitié, lent à la colère, riche en grâce et en fidélité. Je suis celui qui suis est un Dieu fidèle, qui nous dépasse. Nous ne pouvons pas mettre la main devant lui. Nous l'adorons, nous ôtons nos sandales par respect pour lui. Mais c'est un Dieu fidèle. Notre raison nous montre qu'il est au-dessus de la création, qu'il a tout créé. Par sa parole, nous rentrons en contact dans la foi avec lui. Mais si nous trébuchons, si nous sommes idolâtres, pécheurs, je suis et toujours fidèle. Je suis toujours fidèle. Il est lent à la colère, riche en grâce et en fidélité. Exode 34, verset 6. Pour Israël, cette expérience de « je suis » va les amener à découvrir que Dieu est Père, profondément Père. C'est-à-dire qu'il est le Dieu Père des pauvres. Sa fidélité, c'est s'occuper jusqu'au plus petit, d'entendre le cri de l'orphelin et de la veuve. Dans le psaume 68, verset 6, Dieu est le Père des pauvres. Il est encore Père parce qu'il est fidèle à l'alliance qu'il a conclue avec Israël. Dieu est Père parce qu'il est au-delà de la création et que le terme Père montre qu'il n'est pas fusionné à sa création. Dans des mythologies, des conceptions païennes autres, il y avait une approche de la déesse mère Gaïa, la déesse terre, maternelle, qui aime, voilà. Et donc il y avait un rapport de fusion avec le croyant, avec le cosmos, comme si Dieu était le cosmos, le créé. Donc le concept de Père montre beaucoup plus la transcendance. Dieu est au-delà du créé. Il est Père, il transcende, il est au-delà de la création. On ne se confond pas avec lui. Il est trois fois saint, il est au-delà de tout. En cela, la paternité de Dieu exprime mieux l'idée que Dieu est transcendant. Mais si Dieu est Père, sa paternité dépasse complètement notre conception d'un père et d'une mère. Mais pourtant, la paternité trouve en Dieu sa source première. Saint Paul dira plus tard, « Je plie le genou devant Dieu, le Père qui est source de toute paternité. » Ce n'est pas nous les modèles de père et de mère. C'est Dieu la source de la paternité. Et nous verrons, l'image de Rembrandt nous expliquait cela, la peinture de Rembrandt. En effet, l'Écriture nous dit que si Dieu est Père, parce qu'il est fidèle à son alliance, qu'il a conclu avec Israël, l'Écriture nous montre aussi que Dieu aime avec un cœur de mère. Nous retrouvons ça en Isaïe 49, verset 1, 49, verset 5, 66, verset 13. Dieu aime avec un cœur de mère, il aime avec des entrailles. Et la miséricorde, c'est Dieu en hébreu qui aime avec ses entrailles, qui a pitié avec ses entrailles. Donc on voit que Dieu qui est fidèle, je suis qui est fidèle, est un père pour les pauvres, un père fidèle, qui aime avec ses entrailles. Voilà pour notre Dieu qui est Père. Profondément, on pourrait dire, comme l'a dit un bibliste, Dieu est le Père essentiel, c'est-à-dire il est Père dans son essence. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous et moi, nous ne pouvons pas être Père ou Mère depuis notre naissance. Nous avons un nom, nous sommes d'abord êtres humains, nous avons un nom, nous avons une activité, et nous devenons Père ou Mère un jour, spirituellement, Père spirituel pour les consacrés, ou Père vraiment biologique pour les parents. D'accord, ou mère. Donc il y a des étapes. Pour Dieu, il n'y a pas d'étape. Père, Dieu le Père, c'est ce qu'il est, c'est son nom. Dans la Trinité, il y a Père. C'est son nom. C'est pas Paul. Paul qui est papa. Non, c'est Père. Père, depuis toujours. Il n'a pas été enfant et un jour est devenu Père, il est Père depuis toujours. Et il est Père pour toujours parce qu'il continue sans cesse à engendrer. Donc le mot Père, pour Dieu, il est employé de manière absolue. C'est son action, son être, sa personne, son agir, depuis toujours et pour toujours. Voyez la force de ce qu'est Dieu Père. Et Rembrandt a montré que Dieu était Père et qu'il aimait avec un cœur de mère. Dans la peinture de Rembrandt, on voit que Dieu aime son enfant et nous avons une main plus fine qui montre le cœur féminin, les entrailles, et une main plus forte qui prend soin, qui montre la dimension paternelle du Père. Rembrandt a bien montré là Dieu le Père qui aime avec un cœur de mère, avec ses entrailles. Le Père qui aime avec ses entrailles, l'Écriture nous dira qu'il est Père riche en miséricorde, en Éphésiens 2, 4. Ce Père-là nous est révélé totalement en Jésus-Christ. Si Dieu est Père pour Israël, dans sa fidélité qu'il aime avec des entrailles, Jésus nous révèle l'intimité de Dieu, l'intimité de « Je suis ». Et l'intimité de « Je suis », c'est que Dieu est Trinité. Avant, nous voyons Dieu de l'extérieur. Avec Jésus, nous pouvons contempler l'intériorité de Dieu. Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Et la personne du Père, vraiment Père, nous est révélée. Avant personne, avant Jésus-Christ, on peut connaître Père. Qui Israël pouvait connaître Père, Dieu le Père. Mais Israël ne pouvait pas rentrer dans l'intimité de Dieu. L'intimité du Père nous est donnée par Jésus-Christ. En Jean, chapitre 1, verset 18, il nous est dit « Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, celui qui était dans le sein, dans l'intimité du Père, c'est lui qui nous a fait connaître. » Et Paul dira en Romains « L'Esprit Saint nous fait crier « Abba Père », c'est-à-dire nous fait rentrer dans l'intimité du Père. » Avant, quelque part, on est à l'extérieur de la paternité de Dieu. Elle agit sur nous si on est croyant. Elle agit sur nous sans qu'on soit croyant par sa force créatrice. Mais l'intimité du Père nous est donnée par Jésus-Christ parce que nous rentrons dans la Trinité en devenant fils en Jésus-Christ. Et là, il nous est donné de goûter pleinement la paternité divine. Vous voyez, Israël a un manque dans l'expérience du Père. Israël n'est pas encore rentré dans la plénitude de la paternité divine que Dieu veut pour Israël et qui est offert à tout croyant. C'est important de tenir cela parce que c'est Jésus-Christ qui nous révèle tout cela. Je crois en Dieu, le Père. Et nous voyons le visage du Père en Jésus-Christ. Les faits, les gestes, les paroles de Jésus sont le visage du Père. Quand Jésus dit en Jean 14, 9, « Qui me voit, voit le Père ?» Jésus parle de Dieu. Il est parole de Dieu. Il parle la parole du Père. Des fois, c'est tellement vrai qu'il dira « Mes petits-enfants ». Et sa manière de parler, quand elle raconte le récit du fils prodigue qui a illustré Rembrandt en Luc 15, sa manière de poser des actes, de pardonner, il manifeste la miséricorde du Père en actes. Et la manifestation absolue du Père se fait dans la mort et la résurrection du Fils. La croix est le grand signe de la miséricorde du Père. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Donc nous, il nous faut véritablement redécouvrir cette personne du Père comme présente dans tout l'Évangile, même dans les moments douloureux, comme compatissante, aimante, miséricordieuse, en qui nous pouvons avoir confiance, en qui Jésus nous montre le visage et nous donne la manière de l'aborder. Comment entrer dans le Père? Un spirituel, le docteur Simon Carl, disait que l'être humain est un être pros patera, tourné vers le Père. Il est fait pour prier vers le Père, qui va vers le Père. Et par exemple, la prière de saint François d'Assise, j'avais été très touché, quand il regarde la croix du Christ, il ne fait pas que prier le Christ. Avec le Christ, il prie le Père. Par lui, avec lui, en lui, il prie le Père. Est-ce que nos vies chrétiennes s'arrêtent à la figure du Christ ou nous allons vers le Père, qui est la source de tout? C'est une vraie question. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. Dieu est Tout-Puissant. C'est-à-dire qu'il a tout créé. Il a tout créé. Et il nous faut dire que rien ne peut enlever la toute-puissance de Dieu. Des Juifs, et pas que des Juifs, à la suite de l'expérience de la Shoah, ont critiqué la toute-puissance de Dieu. Parce qu'effectivement, il semblerait que l'expérience du mal soit comme un affaiblissement de la toute-puissance de Dieu. Dieu l'a permis, donc Dieu n'est pas tout-puissant. Dieu, on peut le blesser, donc Dieu n'est pas tout-puissant. Or, Dieu est bien tout-puissant. Le psaume 115, verset 3, le rappelle. Tout ce qu'il veut, il le fait. Tout ce qu'il veut, il le fait. Et en Luc, il nous est dit, rien n'est impossible à Dieu. Dieu est tout-puissant. Dieu est tout-puissant parce qu'il est le maître de l'histoire. J'étais avec tes pères et je serai avec toi, lui dit Josué, dans l'Ancien Testament, à Moïse. Il est le maître de l'histoire, c'est-à-dire que tous les événements douloureux, heureux, Dieu peut s'en servir pour sa fin. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, Romains 8, 28. Dieu, personne ne peut lui enlever sa finalité là où il veut aller. Il est tout-puissant. Il peut tout faire et il est tout-puissant. Et son dessein divin, sa toute-puissance, intègre la coopération de l'homme, sa libre initiative. Vous voyez, une toute-puissance qui se contenterait d'agir directement, c'est pas mal. Une toute-puissance qui maîtrise cela, ce serait pas mal. Mais une toute-puissance qui est capable de maîtriser cela tout en permettant à l'homme d'être libre, ça devient de la super toute-puissance. Parce qu'on pourrait dire, si tu partages mon action, ben, tu m'enlèves un peu de mon action. Mais si tu partages mon action, mais je reste toujours dans mon action, mais t'es très 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 fort alors. C'est la toute-puissance divine. La liberté de l'homme n'enlève pas la toute-puissance divine. Dieu est tout-puissant. Et la mystérieuse action, la permission mystérieuse, maléfique des démons que Dieu a permis, par exemple, Dieu permet que Job soit tenté par Satan, par les démons, n'enlève pas la toute-puissance de Dieu. N'enlève pas la toute-puissance de Dieu, puisque d'un mal, Dieu peut en tirer un bien. C'est sa grande toute-puissance, même d'un mal, Dieu peut en tirer un bien. Donc Dieu maîtrise. Dieu est tout-puissant. Dieu est celui qui est. On a dit « je suis ». Je voulais parler de cette deuxième définition qui est plus philosophique mais qui est importante. Le livre de Saint Jacques, l'épître de Saint Jacques au chapitre 1, verset 17, dit « En lui n'existe aucun changement ni l'ombre d'une de variation. Il est celui qui est de toujours et pour toujours », on pourrait rajouter. C'est ce qui est quand il dit « Dieu, je », quand il dit « je suis », c'est-à-dire il est la source de l'existence. Il est la source de l'existence. Et vous voyez, à ce moment-là, cette expérience qu'on peut faire dans notre vie, le fait d'être fini, d'être créé, de ne pas se donner l'existence, ben dans l'Écriture, nous avons une réponse. Dieu est la source de l'existence. Dieu est créateur. Ça, c'est une idée très novatrice dans l'Écriture. Je crois en Dieu, le Père tout-puissant créateur. Dieu est créateur, c'est-à-dire qu'il crée à partir de rien. Dans beaucoup de philosophies avant le judaïsme, on a pensé que l'univers était éternel, que la matière était éternelle. Non, Dieu crée à partir de rien, c'est-à-dire qu'il y a zéro, rien du tout qui existe, et Dieu va créer à partir du néant, ex nihilo. En cela, Dieu est distinct de la création. Et qui crée? Qui crée? Quand nous disons Dieu, le Père tout-puissant créateur, ce n'est pas que le Père qui crée en fait. Les trois personnes divines sont créatrices. En effet, dans le livre de la Genèse, l'Esprit plane au-dessus des eaux et on l'invoque comme Esprit créateur. Dans le livre de Saint Jean, en prologue, il nous est dit que le Verbe, la deuxième personne de la Trinité, Christ, par lui tout s'est fait et rien ne s'est fait sans lui. Et nous savons que le Père est créateur. Donc la Trinité est créatrice, mais si nous disons que le Père est créateur, c'est que nous lui donnons cette dimension d'origine. Parce que le Père engendre le Fils, et il veut nous engendrer. Tu es mon Fils bien-aimé, aujourd'hui je t'ai engendré. Et que le Saint-Esprit vient à sa source dans le Fils, mais d'abord dans le Père. Il procède du Père et du Fils. Donc le Père est la source, et la source vers qui tout remonte. Le Père, le Fils se retourne vers son Père, et l'Esprit Saint qui nous est donné nous aide à nous tourner vers le Père. Donc le Père est la source, en cela, on lui donne une primauté, et on le dit créateur. Créateur du ciel et de la terre. Quand nous disons le ciel et la terre dans la Bible, nous disons la totalité du créé. La totalité du créé. C'est une totalité. Cette totalité du créé, nous dit l'Écriture dans le psaume 145:9, elle est, cette création, fruit de la sagesse et de l'amour. Donc nous voyons, il y a de l'intelligence et c'est aimé. Tiens, cette création, en fait, elle est trinitaire. Elle est intelligente, c'est le Verbe, c'est Jésus. Elle est aimée, elle est fruit de l'amour, c'est l'Esprit Saint. Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, ce n'est pas ce que nous voyons et ce que nous ne voyons pas. L'univers invisible, c'est tout ce qui n'est pas matière, ce qui est purement spirituel. Les anges, les démons, les défunts, le purgatoire, le ciel. Et le visible, c'est tout ce qui nous est matériel. Et que nous voyons, que nous ne voyons pas, les atomes, ou à ce que jour nous découvrirons. Il faut avoir conscience que, sans doute, l'univers invisible est encore plus grand que l'univers visible. Quand nous voyons les recherches des astrophysiciens sur les galaxies, et on n'en finit pas d'être émerveillé de ce qu'on trouve, on peut s'émerveiller quelques instants dans la foi en pensant à l'univers invisible. Et vous voyez, à ce moment-là, il faut prendre conscience que nous ne sommes pas des êtres solitaires. Il faut peut-être retrouver une pensée médiévale où l'homme médiéval était capable de s'émerveiller de la création et il mettait des éléments de la création, des anges, dans les églises. L'homme du 21e siècle et du 20e siècle est un homme profondément seul. On a l'impression que la création, elle est dépeuplée pour lui. Il est paumé dans le néant. Mais ce n'est pas du tout une juste manière de se poser dans la création, dans le cosmos. Heureusement, les problèmes écologiques vont nous ramener à ça. Et profondément, au-delà des problèmes écologiques, il faut prendre conscience que nous sommes dans le cosmos, visible et invisible, une partie infime de la création, et qu'il y a beaucoup autour de nous. Il y a des anges, il y a l'univers, et que le Père Créateur, la Trinité Créatrice, a tout créé. Et vous voyez, dans cette création, je terminerai par là, elle nous donne la possibilité de comprendre l'ordre des choses. Je disais qu'avec notre raison, nous pouvons comprendre des choses, méditer sur des choses. Quand Dieu va donner le décalogue, quand Je suis va donner le décalogue à Moïse, l'Église nous enseigne que ce décalogue, il est accessible par la raison, avant même la foi. C'est ce qu'on appelle la loi naturelle. C'est-à-dire, comme Dieu sait qu'on a abîmé notre intelligence, il nous le rappelle dans la Bible, par révélation, parce que c'est plus simple. Mais à la base, on peut l'avoir par la raison naturelle. Tu ne tueras pas, c'est du bon sens. Mais tous les principes sont du bon sens, y compris normalement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu parce que tu es capable, par ta raison, d'arriver à Dieu. Donc il y a du bon sens. Donc on voit que Dieu, dans la création, a mis les choses avec un certain ordre, qui en découle une certaine beauté, une certaine éthique, voilà, etc., une certaine pensée à réfléchir. Et donc nous ne voyons que dans nos comportements, notre manière d'être homme-femme, notre manière de nous poser, nous est donnée la manière dans la création dont notre Père veut que nous vivons. C'est la loi naturelle. Et donc tout ce qui est contraire à la loi naturelle contredit fondamentalement la création et contredit fondamentalement le dessein du Créateur sur nous. Voyez, tous les débats de société récents touchaient à ces questions-là. L'ordre créateur. Avant même la foi, c'est du bon sens. Et la foi l'amplifie parce qu'elle nous donne une vision surnaturelle de ce monde. Alors on pourrait terminer peut-être, vous pourrez aller voir, avec ce que dit le pape François dans son encyclique. Au début, en parlant de François d'Assise dans son introduction, il rappelle d'ailleurs les preuves de l'existence de Dieu, avec la sagesse en main. Mais voilà, cette idée que François était en communion avec la création. Tellement vrai qu'il disait frère au soleil, frère à l'eau, frère à l'âme, sœur à la mort. François était en communion parce qu'il avait conscience que tout le créé avait une seule source, Dieu, et qu'il était un élément, un être intelligent, spirituel, dans le créé. Et nous pouvons demander au Créateur cette grâce-là. Seigneur, éclaire mon intelligence. Donne-moi la foi pour t'entendre, pour croire dans le mystère de l'Église, pour accueillir la révélation. Donne-moi de goûter ta paternité. Donne-moi d'aimer ton cosmos. Donne-moi de me situer comme une créature et comme un fils. Amen.